Chapitre 8. Transit par Jupiter. L'image de Jupiter avec les bandes blanches de ses nuages, ses anneaux atmosphériques tachetés de rose saumon et la grande tache rouge qui évoquait un œil unique et lourde menace, occupait le centre de l'écran. La planète était aux trois quarts pleine, mais personne ne regardait la surface éclairée, tous les regards étaient braqués sur le croissant obscur. C'était là, dans l'ombre de la planète, que le vaisseau chinois allait affronter son moment de vérité. C'est absurde, pensa Floyd. Il est impossible de voir quoi que ce soit à 40 millions de kilomètres. Et peu importe, la radio nous apprendra l'essentiel. Tien avait interrompu toutes ses transmissions depuis 2 heures, y compris la vidéo et les messages codés, quand il avait ramené ses antennes directionnelles sous l'ombre protectrice de son bouclier thermique. Il ne restait qu'une balise radio omnidirectionnelle, grâce à laquelle il pouvait suivre de minute en minute la course du vaisseau chinois alors qu'il s'enfonçait dans une mer de nuages, chacun de la taille d'un continent.
Pip, pip, pip.
La note aiguë était le seul bruit qu'on entendait sur la passerelle de Leonov. Chaque impulsion avait quitté Jupiter 2 minutes plus tôt. Quand elle leur parvenait, le vaisseau qu'il avait envoyé n'était peut-être déjà plus qu'une boule de gaz incandescent qui se dispersait dans l'atmosphère jovienne. Le signal faiblissait, couvert par des interférences, des parasites, disparaissait par instants, revenait en surface, de moins en moins audible. Un écran de plasma se formait autour de Tien et interdirait bientôt toute communication jusqu'à la remontée du vaisseau, si elle avait jamais lieu.
« Postromi !»
s'écria Max.
« Le voilà !»
Au début, Floyd ne vit rien. Puis, à la limite extrême de la face éclairée, il aperçut un astre minuscule qui luisait là où aucune étoile ne pouvait se trouver, devant la face nocturne de Jupiter. Le point lumineux semblait immobile, mais Floyd savait qu'il plongeait à 100 km à la seconde. Son éclat se fit de plus en plus vif, puis ce ne fut plus un point, mais une tache allongée. Une comète faite de mains d'hommes sillonnait le ciel nocturne de Jupiter en laissant une traînée incandescente longue de plusieurs milliers de kilomètres. Un dernier bip, déformé, curieusement distendu, sortit du haut-parleur, puis on n'entendit plus que le sifflement ininterrompu des radiations joviennes, une de ces nombreuses voix du cosmos totalement indifférentes aux entreprises humaines. Tien était inaudible, mais pas encore invisible. La petite flamme allongée s'était éloignée de la face éclairée de la planète et allait bientôt disparaître dans son ombre. À ce moment, si tout se passait comme prévu, l'attraction de Jupiter aurait capturé le vaisseau et sa vitesse excessive aurait commencé à diminuer. Quand il aurait réussi à contourner la planète géante, il serait provisoirement sur une orbite captive, tel un satellite supplémentaire. L'étincelle disparut. Tien était passé derrière Jupiter et survolait sa face nocturne. Il n'y aurait plus rien à voir ou à entendre tant qu'il ne serait pas sorti de l'ombre, si tout se passait bien, dans un peu moins d'une heure, une heure qui paraîtrait très longue aux Chinois. Pour Vassili Orlov, le navigateur, et Sacha Kovalev, chargé des communications, cette heure passerait très vite. Il pouvait beaucoup apprendre en observant Tien, l'instant de sa disparition, celui de sa réapparition, et surtout en mesurant l'effet Doppler sur leurs émissions, qui leur apporterait des informations vitales sur leur nouvelle orbite. Les ordinateurs de Leonov ruminaient déjà une masse de chiffres et recrachaient une série de prévisions sur la réapparition de Tien, fondées sur différentes valeurs de la décélération dans l'atmosphère jovienne. Éteignit l'écran de l'ordinateur, fit pivoter son siège, déboucla sa ceinture et fit face à l'équipage.
« Première prévision dans 42 minutes. Pourquoi n'allez-vous pas vous promener, vous, les spectateurs, pour que nous puissions nous concentrer et donner forme à tout ça ? Revenez dans 35 minutes. Dehors, New Cody !»
Les indésirables, à regret, quittèrent la passerelle, mais ils revinrent au bout d'une demi-heure à peine au grand dégoût de Vassili. Il était encore en train de leur reprocher leur manque de confiance dans ses calculs quand le bip, 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 familier de la balise radio de Tien, retentit dans les haut-parleurs. Vassili eut l'air stupéfait, même vexé, mais il se joignit bientôt aux applaudissements qui éclatèrent spontanément, sans que Floyd pût voir qui avait commencé. Les Chinois étaient peut-être leurs rivaux, mais ils étaient tous des astronautes, aussi loin de chez eux que des hommes s'étaient jamais aventurés. Des ambassadeurs de l'humanité selon les nobles paroles du premier traité sur l'espace des Nations Unies. Même s'ils n'avaient aucune envie de voir les Chinois triompher, ils ne voulaient pas non plus les voir courir au désastre. Floyd ne put s'empêcher de penser qu'il s'agissait aussi de leur propre intérêt. Ils n'avaient plus à redouter un des écueils possibles qui guettait Léonov. Tien avait démontré que le freinage aérodynamique était effectivement possible. L'atmosphère de Jupiter ne réservait pas de surprises qui auraient pu leur être fatales.
« Ouf !» dit Tania. « Je pense que nous devrions leur envoyer un message de félicitations. Mais ils n'en accuseraient même pas réception. »
Quelques-uns de ses collègues continuaient à se moquer de Vassili, qui regardait incrédule les données fournies par l'ordinateur.
« Je ne comprends pas !» s'écria-t-il. « Ils devraient être encore derrière Jupiter. Sacha, donne-moi une estimation de leur vitesse d'après leur balise radio !»
Après un dialogue silencieux avec l'ordinateur, Vassili siffla tout bas, longuement.
« Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont en orbite captive, d'accord, mais elle ne leur permettra pas d'approcher de Discovery. Leur orbite actuelle les emmènerait loin derrière Io. J'aurai des données plus précises quand nous les aurons observées 5 minutes de plus. »
« En tout cas, dit Tania, ils sont en sûreté sur cette orbite. Ils peuvent toujours faire des corrections plus tard. »
« Peut-être, mais cela va leur prendre plusieurs jours, même s'ils ont assez de propergol, ce dont je doute. »
« Alors nous pouvons encore les battre. »
« Ne sois pas tellement optimiste. Nous sommes à 3 semaines de Jupiter. Ils peuvent faire 12 d'orbites avant notre arrivée et choisir la meilleure pour effectuer un rendez-vous. »
« Toujours en supposant qu'ils ont le propergol. »
« Bien sûr, et là-dessus nous ne pouvons faire que des hypothèses. »
Toute cette conversation avait lieu en russe et il parlait si vite et avec tant de passion que Floyd resta loin derrière. Quand Tania le prit en pitié et lui expliqua que Tien avait dépassé son objectif et se dirigeait vers les lunes extérieures, sa première réaction fut de dire « Alors ils ont peut-être de graves ennuis. Que ferez-vous s'ils appellent au secours ?»«
Vous plaisantez. Vous les voyez faire une chose pareille. Ils sont bien trop orgueilleux. De toute façon, ce serait impossible. Nous ne pouvons pas changer le plan de mission, comme vous le savez très bien. Même si nous avions le propergol,
c'est juste, bien sûr, mais ce serait difficile à expliquer aux 99% de l'humanité qui ne comprennent rien à la mécanique céleste. Nous devrions réfléchir aux complications politiques prévisibles. Ce sera mauvais pour nous tous si nous sommes incapables de les aider. Vassili, voulez-vous me donner leur orbite définitive dès que vous l'aurez déterminée ? Je vais dans ma cabine pour faire mes devoirs. Sa cabine, ou plutôt son tiers de cabine, était encore à moitié pleine de provisions, dont une bonne part s'entassait sur les couchettes qu'occuperaient Chandra et Curnow quand ils sortiraient de leur long sommeil. Il avait réussi à dégager un peu de place pour ses affaires et on lui avait promis de mettre cubes supplémentaires, un luxe, dès que quelqu'un aurait le temps de l'aider à déplacer le matériel. Floyd débloqua sa console personnelle, introduisit son code et demanda les informations sur Tien que lui avait transmises Washington. Il se demandait si ses hôtes avaient réussi à les déchiffrer. Le code était basé sur le produit de nombres premiers à 200 chiffres, et l'Agence de sécurité nationale jouait sa réputation en affirmant que le meilleur ordinateur du monde ne pourrait pas en trouver la clé avant le grand boom à la fin de l'univers. Une affirmation impossible à prouver, sauf à contrario. Il regarda une fois de plus les très bonnes photos du vaisseau chinois, prises quand il avait révélé ses vraies couleurs et qu'il s'apprêtait à quitter son orbite terrestre. D'autres photos, moins nettes, parce que les caméras espions étaient trop loin, du dernier étage en route vers Jupiter. C'était celle qui l'intéressait le plus, ainsi que les dessins en coupe et les estimations de ses performances. Même en prenant les hypothèses les plus optimistes, il était difficile de comprendre ce qu'espéraient les Chinois. Ils avaient dû brûler au moins 90% de leur propergol au cours de leur folle équipée à travers le système solaire. Si ce n'était pas littéralement une mission suicide, ce qu'il ne fallait pas écarter, le seul plan qui ait un sens impliquait l'hibernation de l'équipage et sa récupération ultérieure. Or, les services de renseignement ne pensaient pas que les techniques d'hibernation chinoises fussent suffisamment avancées pour qu'ils puissent choisir cette solution. Mais ces services avaient souvent tort et étaient encore plus souvent noyés sous l'avalanche de faits bruts qu'ils devaient évaluer, le bruit de fond dans les circuits d'information. Ils avaient fait un travail remarquable à propos de Tien en très peu de temps. Mais Floyd aurait préféré qu'on eût mieux filtré les renseignements transmis. Certains n'étaient que des stupidités sans rapport avec la mission. Pourtant, quand on ignore ce qu'on cherche, il est important d'éviter toute idée préconçue. Quelque chose qui paraît d'abord hors de propos, voire absurde, peut devenir un indice décisif. Avec un soupir, Floyd se remit à parcourir le rapport de 500 pages, l'esprit aussi ouvert et réceptif que possible, pendant que défilaient diagrammes, tableaux, photos, certaines si floues qu'elles pouvaient représenter n'importe quoi, articles, listes de délégués à des conférences scientifiques, titres de publications techniques et même documents commerciaux sur l'écran spécial à haute définition. Un système d'espionnage industriel perfectionné avait mis les bouchées doubles, c'était évident. Qui aurait cru qu'une telle quantité d'holomémoires japonaises ou de mini-contrôleurs de flux suisses ou de compteurs de radiation allemands aurait pu être suivie à la trace jusqu'au fond du lac asséché de l'Aube Nord, première étape de leur voyage jusqu'à Jupiter? Quelque information devait se trouver là par accident, mais elle ne pouvait avoir aucun rapport avec la mission. Si les Chinois avaient secrètement commandé un millier de senseurs infrarouges par l'intermédiaire d'une société écran de Singapour, cela ne pouvait concerner que les militaires. Il était extrêmement peu probable que Tien s'attende à être poursuivi par des missiles à tête chercheuse. Et celle-ci, particulièrement drôle, matériel spécialisé de prospection et de forage à Glacier Géophysique Inc., une société d'Anchorage en Alaska. Quel simple d'esprit pouvait imaginer qu'une expédition spatiale aurait besoin de... Son sourire se figea sur ses lèvres. Il sentit sa nuque se hérisser. Mon Dieu, il n'oserait pas. Mais ils avaient déjà osé beaucoup et maintenant, finalement, tout se mettait en place. Il fit repasser les photos sur l'écran et imagina les plans du vaisseau chinois. Ouais, c'était tout juste possible. Ces cannelures à l'arrière, le long des électrodes de guidage, étaient d'une taille adéquate. Floyd appela la passerelle. « Vassili, dit-il, avez-vous déjà calculé cette orbite ?»«
Oui, »
répondit le navigateur d'une voix curieusement étouffée. Floyd comprit aussitôt qu'il avait découvert quelque chose. Il risqua sa chance. « Il prépare un rendez-vous avec Europe, n'est-ce pas ?» Il y eut un sursaut incrédule à l'autre bout.
« Short Fosby, comment l'avez-vous su ?»«
Je n'en savais rien. Je l'ai deviné. »«
Il n'y a aucune erreur possible. J'ai vérifié les chiffres jusqu'à la sixième décimale. Leur manœuvre de freinage s'est passée exactement comme ils le voulaient. Ils vont droit sur Europe. Ce ne peut pas être par hasard. Ils y seront dans 17 heures. »«
Et ils se mettront sur orbite. »
« Peut-être. Il ne leur faudra pas beaucoup de popergol. Mais pourquoi faire ?»«
Je vais encore essayer de deviner. Ils vont faire un survol rapide et ils vont se poser. »«
Vous êtes fou ou vous savez quelque chose que nous ignorons ?»«
Non. C'est une simple déduction. Vous allez vous mordre les doigts de n'avoir pas vu ce qui vous crevait les yeux. »«
Ok, Sherlock. » Pourquoi qui que ce soit voudrait-il se poser sur Europe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, pour l'amour du ciel?
Floyd savourait son moment de triomphe. Bien sûr, il pouvait encore se tromper du tout au tout.
Qu'est-ce qu'il y a sur Europe? Rien que la substance la plus précieuse de l'univers.
Il en avait trop dit. Vassili n'était pas un imbécile et il termina sa phrase avant lui.
Bien sûr. De l'eau!
Exactement. Des milliards et des milliards de tonnes d'eau, suffisamment pour remplir les réservoirs de propergol, aller se promener sur toutes les lunes de Jupiter et en avoir de reste pour aborder Discovery et revenir sur la Terre.
J'ai horreur de dire ça, Vassili, mais nos amis chinois nous ont encore une fois damé le pion.
Toujours en supposant, bien sûr, qu'ils arrivent à s'en tirer.